Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, Rachid Etemal, plaide pour la création d'un office de la jeunesse franco-algérienne. Le sénateur PS était dans la délégation qui accompagnait le président français la semaine dernière en Algérie. Rachid Etemal était l'invité de Pluriel, extrait dans votre journal. Le président irakien se dit favorable à la tenue d'élections législatives anticipées. Objectif, sortir de la crise. Son pays secoué cette semaine par des combats meurtriers entre factions rivales. La Tunisie place l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des startups au cœur de son modèle de développement futur. C'est ce qu'a indiqué depuis Paris la chef du gouvernement tunisien. De nombreux hommages au lendemain de la mort de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS était âgé de 91 ans. La rentrée scolaire, ce jeudi en France, la défenseure des droits interpelle l'éducation nationale sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap à l'école. Notre invité sera le coordinateur national du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. Ce souhait du président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, Rachid Etemal, souhaite la création d'un office de la jeunesse franco-algérienne. Le sénateur socialiste était dans la délégation qui accompagnait le président français la semaine dernière en Algérie. Rachid Etemal, qui était l'invité de Pluriel, extrait.
Je retiens une vie de haut niveau, de haute densité. Je crois que les relations nouées entre le président de la République français et le président de la République algérienne vont permettre d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je crois que il y avait une volonté des deux parties, que ce soit les deux chefs d'État, mais également les gouvernements, mais également dans l'ensemble de la délégation, puisque nous avions à la fois des parlementaires, à la fois des représentants du monde universitaire, du monde économique, du monde de la culture notamment, et du sport, et des médias. Et donc, chacun a pu noter l'intérêt pour un partenariat renforcé, de modifications concrètes, parce que je crois que les deux parties ont envie que leur jeunesse, justement, soit dans un cadre de développement, de construction commune, d'échange et de dialogue.
Cette déclaration est tournée vers des projets d'avenir et la jeunesse en particulier. Concrètement, quel projet pourrait naître grâce à cette coopération ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, Avant de parler de l'avenir, il y a quand même un mot qui me semble essentiel, c'est la volonté de cette déclaration d'avoir un cadre aussi politique, avec un certain nombre de réunions, notamment il y a au Conseil qui va se réunir, où il y aura à la fois les premiers ministres, à la fois des ministres. Je crois que c'est important de poser un cadre politique. Il y a un élément qui est aussi très important entre les deux pays, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est la question de la mémoire, des mémoires, et la question notamment des archives, et je crois que l'accord des deux parties d'avoir un collège de 5 à 6 historiens algériens et français qui travaillent ensemble sur la période 1830-1962 en ayant accès à toutes les archives et un rapport dans une année, une grande avancée. Et puis après, il y aura effectivement beaucoup de projets, vous l'avez dit, il y a eu notamment des conventions qui ont été signées avec le CNRS, avec l'Institut Pasteur, donc il y aura sur la jeunesse la création d'incubateurs de start-up, il y aura le renforcement de la coopération universitaire. Je l'évoque au président Macron, je crois que la question de la coopération universitaire est essentielle à mon sens, parce que ça permet, on sait bien, que les jeunesses vont dialoguer, travailler ensemble, faire de la recherche ensemble, et donc avoir comme cela point de point commun. Il y aura aussi des investissements, notamment sur l'ensemble des domaines. Bien sûr, il y aura des éléments sur la partie énergétique, on en a besoin. Sur la partie sécuritaire, je crois que tout ça aussi est important. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'actions concrètes qui vont se mettre en place. Et la volonté du président Macron est effectivement d'avoir rapidement des résultats. Et donc, une fois que la déclaration est signée, il y aura rapidement des échanges, des déplacements pour que cela avance rapidement. Et moi, je souhaite, vous voyez, moi j'ai un rêve, ce que j'expliquais aux deux présidents, mais il n'est pas encore abouti. Je crois que, comme il y a eu le traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne, il serait bien qu'un jour nous ayons un traité, soit si en Algérie, soit en France, mais entre l'Algérie et la France, je crois que ce serait une bonne chose. Et pour ma part, j'aimerais pousser la création d'un office de la jeunesse franco-algérienne. Je crois que ce serait aussi un élément important, comme ça a été fait aussi sur l'exemple avec l'Allemagne, où des jeunes ensemble font des actions communes, concrètes, parce que je crois que plus que la jeunesse, personne d'autre peut faire ça mieux que cet échange-là qui sera, je crois, fécond pour les années à venir.
Rachid Temal, sénateur socialiste, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Il était l'invité de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur radioorient.com. Le président irakien se dit favorable à la tenue d'élections législatives anticipées. Objectif, sortir de la crise. Son pays secoué cette semaine par des combats meurtriers entre factions rivales. La locution de Bahram Saleh est survenue quelques heures après la fin d'affrontements meurtriers à Bagdad entre les partisans de Moqtada Sadr et les forces de l'ordre. 30 partisans de Moqtada Sadr ont été tués dans ces combats qui ont cessé quand le chef religieux et politique a ordonné à ses partisans de se retirer de la zone verte, ce périmètre ultra sécurisé au cœur de Bagdad. Avant que des élections législatives soient organisées, le Parlement doit d'abord être dissous. Une dissolution ne peut être actée que par un vote des députés à la majorité absolue. La Tunisie place l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des start-up au cœur de son modèle de développement futur. C'est ce qu'a indiqué depuis Paris la chef du gouvernement tunisien. C'était lors de sa participation à la rencontre des entrepreneurs de France. Najla Bouden souligne que la Tunisie s'attelle à instaurer un climat des affaires plus attractif en privilégiant le dialogue entre les secteurs publics et privés. Plus de 3 tonnes de cannabis ont été saisies à Casablanca. La police judiciaire marocaine a mis la main sur plusieurs dizaines de sacs de drogue et un suspect a été placé en garde à vue. De nombreux hommages au lendemain de la mort de Mikhail Gorbatchev. Le dernier dirigeant de l'URSS était âgé de 91 ans. Pour Emmanuel Macron, Mikhail Gorbatchev était un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune, a ajouté le président français. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, souligne que le monde a perdu un immense dirigeant mondial engagé envers le multilatéralisme et défenseur infatigable de la paix. Et le président russe Vladimir Poutine, dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin, écrit que Mikhail Gorbatchev a eu une grande influence sur l'histoire du monde. Emmanuel Macron réunira vendredi un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France. Dans ce contexte, le fournisseur de gaz russe Gazprom suspendra complètement ses livraisons au groupe français Engie dès ce jeudi. Raison invoquée, des factures non payées par Engie en réaction aux sanctions occidentales à l'encontre de Moscou suite à son offensive contre l'Ukraine. La Russie a plusieurs fois réduit ses livraisons de gaz à l'Europe, l'Europe qui en est fortement dépendante. La rentrée scolaire ce jeudi pour les élèves en France. La défenseur des droits interpelle l'éducation nationale sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap à l'école. Entretien avec le coordinateur du collectif handicap, Stéphane Lenoir.
Le regard qu'on peut porter sur la rentrée qui va venir là, c'est à la fois un regard plutôt optimiste dans la mesure où l'éducation nationale annonce encore une augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap à l'école. Donc ça, on peut le voir quand même plutôt d'un bon œil. Néanmoins, effectivement, reste encore de nombreuses difficultés pour un grand nombre d'enfants. Et pour cette rentrée scolaire, il est fort probable que des enfants ne puissent pas rentrer à l'école de la République. Tout simplement parce que soit les aménagements ne seront pas mis en place ou ils manqueront encore une fois des aides humaines. Donc on craint effectivement que, et notamment pour les élèves avec qui ont le plus de difficultés, qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire. La scolarisation, c'est plus qu'un enjeu c'est un droit fondamental. Il faut le rappeler, tout enfant de la République doit aller à l'école. Donc chaque enfant qui ne va pas à l'école, en fait, c'est un échec pour notre République. Donc aujourd'hui, on constate effectivement, même si l'éducation nationale, depuis plusieurs années, fait des efforts, et il faut le saluer, et il faut évidemment l'encourager, pour que de plus en plus d'enfants en situation de handicap puissent aller à l'école. Néanmoins, on constate encore des freins récurrents, et il y a encore énormément de travail à faire. Alors on pourrait citer par exemple la formation de l'ensemble du personnel de l'éducation nationale. Il faut absolument que tout, et le corps enseignant évidemment en priorité, mais que tous les enseignants soient formés au handicap. On peut également citer l'accessibilité à l'école. Il faudrait que toutes les écoles puissent accueillir les enfants, par exemple, qui se déplacent en fauteuil roulant. Et on pourrait citer également les aménagements pédagogiques, etc., etc. Donc effectivement, c'est un enjeu extrêmement important pour les enfants en situation de handicap et leur famille.
Cette accessibilité à l'école, est-ce une obligation aujourd'hui de la part de l'État ?
Alors c'est une obligation, à la fois de l'État, mais aussi des communes. Tous les bâtiments publics doivent être accessibles aujourd'hui. Alors on sait qu'il y en a un certain nombre qui ne le sont pas. Et c'est une des raisons qui freine et entrave l'accès à l'école. Mais il y a l'école, mais il y a aussi en fait tout l'environnement. Et on peut citer par exemple aussi les transports. Les élèves doivent pouvoir aller à l'école. Parfois ça nécessite des transports qui manquent aussi parfois. Les activités extrascolaires doivent aussi être accessibles à l'ensemble des enfants. Donc en fait, c'est tout un environnement qui doit être accessible.
Et qui est responsable lorsque cette accessibilité n'est pas là ?
Pour les écoles, ça va être les communes, ou pour les collèges, ce sera le département, et puis après, ça peut être aussi les universités, etc. Donc ça dépend en fait effectivement des responsables, et ça peut aussi être l'État. Il y a plusieurs acteurs qui sont responsables de l'accessibilité.
Et encouragez-vous les familles à mener des actions lorsque un établissement n'est pas accessible ?
Les familles ont des recours juridiques qu'elles peuvent évidemment mettre en œuvre pour obliger les acteurs à intégrer un enfant. L'idéal, effectivement, c'est quand même quand, et ça arrive, hein, évidemment, il faut quand même le souligner, il y a des équipes pédagogiques qui entendent et qui répondent aux besoins des enfants, mais évidemment, l'idéal, c'est avant d'avoir accès au recours juridique, c'est d'anticiper la rentrée. Alors, les parents, évidemment, le font, mais c'est aussi du côté, par exemple, de l'administration ou des équipes pédagogiques ou des académies qui, eux aussi, doivent anticiper les rentrées, s'accorder avec d'autres administrations pour permettre une rentrée dans les conditions les plus optimales possibles.
Vous faisiez part des avancées qui ont eu lieu ces dernières années. Concrètement, est-ce que vous pouvez justement nous dire quelles avancées importantes ont eu lieu ?
Il faut quand même reconnaître que l'éducation nationale prend le sujet de la scolarisation des enfants en situation de handicap à bras-le-corps. Alors c'est souvent, ça peut être compliqué, mais on peut quand même constater l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap à l'école, il faut le souligner. Alors après, évidemment, on peut y ajouter des bémols, c'est-à-dire que on craint, et d'ailleurs l'enquête UNAPI le montre, hein, que, encore une fois, les enfants qui ont les plus grandes difficultés, ces enfants-là n'ont pas accès à l'école de la République et parfois se retrouvent sans solution de scolarisation. Mais sur les territoires, on peut quand même constater des équipes pédagogiques motivées, consciente qu'il faut nécessairement adapter l'école, et ça se fait ici ou là. Et nous, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est que cet état d'esprit soit généralisé.
La France dispose-t-elle de suffisamment d'accompagnants d'élèves en situation de handicap d'AESH ?
La question des AESH, elle est récurrente. Cette année, le ministère annonce encore un 4000 AESH. On sait pertinemment aussi que le ministère a des difficultés de recrutement d'AESH, ce qui pose des problèmes en termes d'accompagnement d'un certain nombre d'enfants. Néanmoins, il faut aussi ajouter que les AESH ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'école inclusive. Il y a différentes façons d'adapter l'école, il y a d'autres modalités de compensation, dont font partie les AESH, et ces accompagnants sont évidemment importants. Néanmoins, ça ne peut pas être le seul. Il y en a d'autres. On pense notamment, et c'est pour ça que je le citais, à la formation des enseignants, à l'adaptation des méthodes pédagogiques, conditions d'accueil. Ce sont l'ensemble de ces éléments, dont les AESH, qui vont permettre à l'école d'accueillir l'ensemble des enfants.
Et la présence d'élèves handicapés dans une classe, c'est aussi une richesse pour les élèves. Cela doit être mis en lumière.
Et effectivement, un enfant en situation de handicap dans une classe, aujourd'hui, même si c'est de plus en plus courant, mais ça peut parfois interpeller les enfants, voire les parents. Mais c'est la manière aussi d'habituer l'ensemble des petits Français, des petites Françaises, de comprendre aussi ce que c'est les situations de handicap, et de aussi de leur point de vue, de s'approprier les difficultés que peuvent connaître leurs camarades. Donc c'est important, mais c'est aussi important pour l'enfant en situation de handicap qui désire et qui aspire, comme tout enfant, à vivre avec ses pairs de la même classe d'âge. Donc en fait, ça va évidemment dans les deux sens. C'est une richesse dans la mesure où effectivement ça, il y a une question d'habituation aussi, mais ça doit pas, si vous voulez, de notre point de vue, la richesse que peut apporter un enfant en situation de handicap, mais la richesse peut être apportée par l'ensemble des autres enfants, ça doit pas être le prétexte pour une intégration. Le premier motif de scolarisation, c'est le droit. C'est un droit fondamental. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un enfant en situation de handicap s'intègre aussi, dès lors que les conditions sont remplies, s'intègre avec l'ensemble des autres camarades et se crée des copains, et se crée une vie scolaire, des souvenirs scolaires, et ça permet un épanouissement comme tout un chacun.
Et vous appelez aujourd'hui au respect total de ce droit fondamental, même s'il y a eu des avancées, ce n'est pas encore totalement le cas.
Tout à fait. On l'appelle et on continuera évidemment chaque année, à chaque rentrée scolaire, de rappeler ses obligations à l'éducation nationale.
Le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. Il ne fait plus la une de l'actualité, mais à l'approche de l'automne, les autorités se préparent à un retour en force du Covid-19. Les experts sont tous persuadés qu'il y aura une reprise de l'épidémie à l'automne, peut-être quand les températures chuteront. C'est ce qu'indique Brigitte Autran, la présidente du nouveau comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, comité qui a remplacé le conseil scientifique. La professeure d'immunologie souligne que la baisse de la circulation du virus s'est ralentie. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h et Nicolas Jeannetet, élu Les Centristes au Conseil de Paris, vice-président du groupe Changer Paris, en charge de la sécurité à la mairie du 15e arrondissement. Émission rediffusée ce jeudi matin à 7h. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Et un très grand merci pour votre fidélité.